Je suis avec Léo, joueur de la team Betclic. Léo, comment tu te sens ?
J'adore ce parfum d'Europe. Je sens qu'il y a des bons plans à aller chercher.
Prêt pour le coup d'envoi alors ?
Ouais, mon app Betclic est ouverte.
Ce soir, Betclic booste les paris les plus populaires de ta soirée européenne. Alors rendez-vous maintenant sur l'app Betclic pour en profiter. Betclic et le sport se vit plus fort. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Arriba Thiago, remata Ramos. Marco Ramos. Real Madrid 1. Atlético de Madrid 1.
Balotelli. Aguero. The greatest moment I've seen in Premier League football.
Stand 1-0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt. Mit rechts, flach ins linke Eck. Coin Coin Shea wusste alles.
Pronto ad andare Pirlo. Il secondo palo. Palo d'arrivo.
Go! Go! 20h, 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Magnifique générique signé Paul Vexio, hein, qu'on salue bien et qui nous écoute. Polo, Paul Vexio, bien sûr. Tiens, rapidement, le nom.
Manolo Lama.
Pour l'Espagne, l'Italie.
Fabio Caressa.
Polo pour l'Allemagne. Le commentateur.
Brême.
Brême. Et Julien. Non, pas le buceur, c'est Andreas Brême, mais le commentateur. T'as écouté, Polo?
Non, je reviens des toilettes.
Okay. Bah, c'est on vrai que Polo et moi, nous
magnifique.
Non, mais c'est vrai qu'à nos âges, c'est dur de tenir deux heures.
Oui.
Évidemment, la prostate, quoi. Hein.
Bah oui. Bah ouais.
Qui se remplit très vite, c'est ça, Fredo?
Bah oui. Dans la prostate, exactement. Ça se remplit pas.
Non, t'as raison. Non. C'est pas la prostate.
Non, je n'ai pas de problème. Allez. De prostate. Ouais. J'ai des calculs, mais pas de problème de prostate. Alors Polo, je sais pas, mais je souhaite pas.
Allez, c'est parti. Polo, tu es posé. C'est bon.
Oui, je suis là.
Tu es frais. Le Bayern va mieux. Le Bayern va bien, victoire 4-2 contre Wolfsburg ce week-end en Bundesliga, après en avoir mis 4 en milieu de semaine en coupe à Mayence.
À Mayence, ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat en Allemagne pour voir si le Super Bayern est de retour, ou si c'est tout simplement Niko Kovac qui s'est complètement planté dans sa tactique, parce qu'il est repassé dans une défense à 3 qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois, et il s'est fait éventrer en 20 minutes, 3-0, deux superbes buts au passage de Kingsley Coman sur une passe aussi encore de Cancelo, deux titulaires de passes décisives, ça va, c'est pas mal. Et en fait, tu te rends compte que ce Bayern-là peut redevenir une machine, mais il y a encore certaines faiblesses défensives. Ils sont repassés dans une défense à 4. Je vous rappelle que contre Mayence, il y avait le fameux défense à 3 qui avait super bien marché. Il manquait du monde, dont Upamecano qui avait un petit problème aux orteils. Différents joueurs, Manuel Neuer jouait en pointe avec un super but de la tête au passage, parce que Choupo-Moting était malade. Et en fait, si tu veux, le débat, il est quand même que on sent que la machine est en train de revenir, mais c'est pollué par un environnement qui est, excusez-moi le mot, dégueulasse en ce moment, qui on ne parle que de ça. C'est l'affaire Manuel Neuer, une de plus, j'ai envie de dire, qui tu as tous les éditorialistes, tous les experts du foot allemand qui prennent position, Kicker a fait des révélations ce matin assez impressionnantes.
Tu peux rappeler Polo,
Manuel Neuer, en fait, on le sait, s'est blessé au ski, etc. Et durant sa convalescence, on en a profité pour licencier le coach des gardiens, Tapalovic, qui était très, très proche de Manuel Neuer, qui bossait avec lui depuis 11 ans et demi. On lui reprochait notamment à Tapalovic de ne pas avoir facilité le rapprochement avec Alexander Nübel pour revenir au Bayern cet hiver.
D'avoir été l'entraîneur exclusif d'un seul gardien, Manuel Neuer.
Exactement. Donc Manuel Neuer, lui, l'a très très mal.
Il dit que ça m'a arraché le cœur, c'était le coup le plus brutal de ma carrière.
Et donc, il a fait une interview non autorisée à The Athletic en Angleterre et à la Süddeutsche en Allemagne. Et donc ça fait un bruit fou, c'est-à-dire qu'on a parlé que de ça ce week-end. J'ai envie de dire les responsables des différents clubs, pour l'énorme majorité, balancent sur Manuel Neuer en disant ça doit rester dans le vestiaire, on n'a pas à sortir ce genre d'infos parce que ça fragilise le club. Encore ce soir, Herbert Heiner, le président du conseil de surveillance du Bayern Munich, a balancé sur Manuel Neuer en disant c'est très décevant et c'est incompréhensible ce qu'il a fait, il aurait dû venir nous voir plutôt que se s'ouvrir ouvertement au public en publiant ses interviews. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions chez Manuel Neuer sur ce qui vient de se passer. Tu vois un Lothar Matthäus qui dit mais c'est fini pour lui, il peut plus porter le maillot le brassard pendant le capitaine au Bayern Munich. Et puis
toujours aussi nuancé, hein, Lothar.
Exact. Mais tu vois que Kicker quand même apporte plus d'informations. C'est-à-dire que le relationnel entre Nagelsmann et Neuer, ça n'a jamais été l'amour fou. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait un autre joueur qui aujourd'hui joue à Barcelone, Lewandowski. c'était pas l'amour fou non plus. Et comme par hasard, c'est l'ancienne génération qui peut-être dérange un petit peu Julian Nagelsmann dans sa prise de pouvoir au Bayern Munich. Kicker nous apprend aussi que beaucoup de joueurs se sont solidarisés avec Manuel Neuer. Donc, si tu veux, tu as le groupe d'un côté contre Nagelsmann et la direction plus, on va dire, les experts, etc., mondiaux. Tu as un Uwe Stevens. Alors, les gens connaissent pas Uwe Stevens forcément en France. Uwe Stevens, c'est le coach légendaire de Schalke 04 qui a remporté la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA en 1997, et qui a dit: je comprends que vous, les journalistes, vous ayez le sentiment que c'est le retour du FC Bayern, mais ce qu'a fait Manuel Neuer, c'est presque criminel, dans le sens où il ne doit jamais faire une chose comme ça. Et donc, on se pose la question de l'avenir de Manuel Neuer, évidemment, lorsqu'il reviendra. C'est-à-dire, faut-il encore qu'il revienne, parce que sa fin de contrat, c'est 2024. Et on se demande aussi aujourd'hui, politiquement, si tout ça n'a pas été orchestré par la direction du Bayern pour que Manuel Neuer pète une durite, pour se dire: bah, tu vois, Manuel, c'est fini. Et on va préparer l'avenir. C'est très compliqué ce qui se passe en ce moment. Je comprends ce que dit Oliver Kahn quand on voit le calendrier du Bayern, où évidemment ils sont peut-être en tête de la Bundesliga, mais ils ont qu'un point d'avance sur l'Union de Berlin. Il y a Paris qui arrive la semaine prochaine, et donc en ce moment, bah, si tu veux, au Bayern, c'est très très délicat.
Voilà, pour Manuel Neuer, à maintenant 8 jours du déplacement au Parc des Princes, 8e de finale aller de Ligue des Champions, bien sûr, face au Paris Saint-Germain. Bon, le match, on a parlé très rapidement, Cancelo qui est encore son deuxième match, signé une passe décisive, magnifique pour Coman qui met un doublé.
Superbe deuxième but d'ailleurs.
Et le but de Moussiala aussi.
Et le but de Moussiala, phénoménal, à 10 contre 11.
Mais alors ça, c'est super
qui
intéressant.
La défense de Wolfsburg.
Mais faut regarder les défenseurs. Enfin, mais tous
oui,
les
t'as
joueurs.
Raison, un peu plus haut, quand même.
Il n'y en a plus un seul qui veut mettre le pied aujourd'hui. Quoi.
C'est vrai, t'as raison. C'est ce qu'on s'est fait comme réflexion quand on regardait le match hier ici à RMC. Ouais. Il est passé comme entre des piquets, quoi, comme sur un slalom.
Exactement.
Bon, bref, ce qui n'enlève rien à sa vitesse d'exécution
et
à sa précision devant le but. Fred, le Barça porte son avance à 8 points en tête de la Liga sur le Real Madrid. C'est énorme.
C'est énorme.
On te le dit souvent, non ?
C'est beaucoup, et c'est surtout en fait la sensation qui se dégage. Ah oui, pardon, excuse-moi la blague. C'est vrai qu'on me dit tellement souvent que je n'ai même pas relevé. C'était là mon talent, bien sûr. C'est beaucoup parce que on se posait la question de la crise, de typique crise de janvier du Real Madrid, et on avait pensé qu'elle était dépassée, parce que même l'autre jour, quand ils ont fait le match nul à domicile contre la Real Sociedad, après un match vraiment exceptionnel, un des meilleurs matchs, on dit oui, mais il y a du jeu. Ouais, sauf que quand on voit le match à Mallorca hier, et on y reviendra dans quelques minutes avec Clément Grenier, qui sera notre invité à partir de 21h30, il y a pas d'alternative. En fait, on a vraiment le sentiment du côté du Real Madrid, et maintenant je parle du Barça, que là, on est dans une période de transition. C'est-à-dire entre ceux qui sont vers la fin, les Modric, les Kroos, etc., et ceux qui arrivent. Tchouaméni,
mais qui sont pas encore totalement prêts.
Mais qui sont pas encore totalement prêts. Parce que hier, par exemple, Ancelotti débute le match à Mallorca sans Kroos et Modric, qui sont pas blessés, qui étaient sur le banc, qui rentrent en deuxième période, mais quand c'était un peu trop tard, quoi, voilà. Et on est vraiment dans une période de transition. Alors que le Barça, on a le sentiment que Xavi a terminé la période de transition. Ça y est, il a commencé à trouver son 11. Il continue à faire, par exemple, on voit la renaissance d'un joueur comme Jordi Alba, qui hier met un but contre Séville. Après, Séville, c'est pourri. C'était lamentable. 3-0. Ça aurait pu être 7-8, hein. Mais, quand on voit Jordi Alba qui met un but, qui fait une passe décisive, on sent que même sans Dembélé, qui est blessé, cette équipe du Barça, elle a des ressources. Hier, on a vu un bon match de Franck Kessié, par exemple, qu'on n'avait pas encore vraiment vu jusqu'ici. Et ce Barça, a pas besoin de faire un grand match hier pour battre Séville, mais il joue à Gérone, il fait un match très mauvais, il gagne. Il joue contre Retafe, il fait un match mauvais, il gagne. C'est-à-dire qu'il y a un rythme de champion du côté du Barça. On sait qu'ils sont capables de fulgurance, mais que ça tient, voilà, la baraque tient, et que voilà, Xavi a trouvé un 11, voilà. Francky De Jong maintenant, il est de plus en plus présent. On voit par exemple que Gavi ou Pedri, avant ils s'obstinaient à toujours vouloir mettre Rafinha, Dembélé et Ancelotti et Lewandowski. Là on voit que souvent tu as Pedri ou Gavi plus en attaque, etc. Voilà. Je sais pas si le Barça va gagner la Liga. Le Barça peut la perdre. Mais là, il a toutes les clés entre les mains. 8 points, c'est énorme. C'est-à-dire que le Barça peut même se permettre une défaite dans le dernier Classico qui aura lieu, en plus au Camp Nou. il y aurait toujours 5 points d'avance. Non, mais c'est-à-dire que la situation, elle est très très compliquée. On a l'impression que le Barça a mangé son pain noir et que là, ça commence à prendre forme.
Voilà, et pas mal pour Xavi pour sa vraie première saison.
Oui, voilà. Du Barça. Après, il y a eu de la patience. Ce qui avait de bien aussi, il faut quand même reconnaître à Laporta que Xavi, il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient viré Xavi au mois de décembre dernier quand ils ont été éliminés de la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, le Barça qui est pour une deuxième année de suite éliminé de la Ligue des Champions, c'est grave. Mais il l'a maintenu parce qu'il avait dit à Xavi quand il était allé chercher, quel que soit le résultat, je suis derrière toi. Et il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de pression. Il a soutenu. Et là, ça commence à se mettre en place. Et l'intégration de nouveaux joueurs se passe plutôt bien. Et des anciens, j'insiste comme Jordi Alba, qui apporte vraiment un élément différentiel à certains moments et pour certaines rencontres. Et ben voilà, le Barça est vraiment très très bien parti pour être champion d'Espagne. Et à un moment, oui, parce que la transition du Real, on en parle depuis de nombreuses années. Mais comme il gagnait, c'était difficile de mettre Kroos et Modric sur le banc, etc. Donc là, on est vraiment entre deux âges, on va dire. Et puis en plus, il y a beaucoup de blessés. Dernière petite info, Courtois et Benzema ne seront pas mercredi, hein, parce qu'ils viennent de partir à Rabat, où se joue le mondial des clubs. Donc ils ne seront pas là pour jouer contre Al-Ahly en demi-finale de ce mondial des clubs mercredi. Ils sont restés à Madrid. Peut-être qu'ils seront présents et qu'ils feraient le voyage d'Espagne au Maroc, ça va vite. Oui. Samedi soir vendredi pour jouer samedi soir en cas d'une possible finale. Mais il y a quand même des blessés importants comme Mendy, comme Lucas Vázquez, comme Militao, Hazard, on s'en fout. Mais surtout Courtois et Benzema, ça sent pas très bon pour le Real.
Qui est toujours bien sûr qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On les retrouvera dans quelques
contre
jours.
Contre Liverpool,
qui va pas très bien. On en parlera également dans un instant avec Julien. D'abord, Julien, parlons de Tottenham, parlons d'Harry Kane, qui est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham.
Ouais, 267 buts hier, le but vainqueur en plus, la victoire 1-0 de Tottenham contre Manchester City, chez lui à domicile, devant toute sa famille, devant un stade qui était conquis, qui attendait bien sûr le record, il avait égalé lors de la victoire contre Fulham quelques jours plus tôt, donc on l'attendait, ce but est venu tôt dans la rencontre, en plus une rencontre que Tottenham a mérité de gagner, Kane a encore guidé cette équipe et porté cette équipe là, mais quel joueur incroyable, 200 buts en première ligue en 304 rencontres, c'est donc un ratio de 0,66 buts par match. C'est mieux que Alan Shearer qui lui a le record actuel de meilleur buteur de première ligue avec 260 buts. Wayne Rooney est à 208, donc il va dépasser Rooney très vite. Kane, pour Shearer, il devrait y arriver, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Il est encore loin par exemple d'un Dixie Dean qui est le buteur absolu dans l'histoire du football anglais, mais pour vous montrer un petit peu à quel point sur les 9 dernières saisons, puisque son premier but, sa première titularisation avec Tottenham remonte à il y a 9 ans à Sunderland sous Tim Sherwood. Il a connu beaucoup d'entraîneurs depuis, notamment Mauricio Pochettino qui lui a fait vraiment passer un palier et il a vécu 5 années assez exceptionnelles, mais voilà, c'est un joueur fantastique, on l'a déjà dit, qui est plus qu'un buteur même, parce qu'il a un nombre de passes décisives qui est assez impressionnant, il sait tout faire, il a une qualité technique, une vision du jeu incroyable, mais voilà, c'est avant tout un vrai 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 beau buteur et il mérite bien sûr tout l'amour que l'Angleterre et surtout les supporters de Tottenham sont en train de lui montrer aujourd'hui.
Joueur populaire en Angleterre, hein, pas qu'à Tottenham, Julien, hein, on est d'accord.
Hein. Oui, bien sûr, capitaine de l'équipe nationale, c'est sûr, même si forcément le pénalty manqué à la Coupe du Monde contre les Bleus lui a fait mal.
Quelle belle émotion.
Mais non, ça reste. De toute façon, il deviendra aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Enfin, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec Wayne Rooney. Il va améliorer ce record de plusieurs buts. Hein. Il a que 30 ans. Enfin, il aura 30 ans à la fin de l'année,
à la fin
de la saison. Donc, il est encore jeune. Il a le temps. Je ne sais pas jusqu'où il ira. Je ne sais pas si son record pour l'Angleterre ou pour Tottenham sera un jour battu. Et surtout, la grande question pour finir, c'est est-ce qu'il jouera toute sa carrière à Tottenham ou est-ce qu'il partira un jour? Il arrive en fin de contrat en juin 2024, donc on parle déjà beaucoup de son avenir, est-ce qu'il partira, est-ce qu'il restera, où est-ce qu'il peut aller s'il veut partir, est-ce qu'il vaut mieux battre tous les records pour un seul club et ne jamais rien gagner, parce que c'est possible qu'il finisse sa carrière à Tottenham sans aucun trophée, ou alors qu'il parte pour aller chercher un titre de champion d'Angleterre par exemple, ou une Ligue des Champions ailleurs, d'autres l'ont fait avant lui, d'autres sont aussi restés dans le même club, voilà, on verra, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en Angleterre qui sont un peu romantiques et qui aimeraient qu'il passe toute sa carrière à Tottenham.
Harry Kane, 80 sélections avec les Three Lions, 53 buts tout de même. C'est le bilan d'Harry Kane en sélection. C'est l'heure de la minute de Johan Crochet. C'est parti. Toto, tu peux envoyer la musique.
Dentro, verso, fuori, dentro. Ogni docente era certo che io fossi l'arma
J'aime bien le rythme.
Moi aussi, c'est le rythme m'a beaucoup plu. La chanson, c'est Campione dei Noventa, ça veut dire champion des années 90. Champion, pourquoi? Parce qu'on va parler des entraîneurs, champion du monde 2006. Quel beau souvenir aussi, Fred, 2006. Et il y a, j'en avais parlé au tout début de saison, je crois, il y a 4 joueurs de cette sélection italienne qui sont en série B, qui entraînent en série B. Et les fortunes sont un peu diverses. Alors, pourquoi cette actualité-là aujourd'hui? C'est parce que Cannavaro a quitté Benevento. Parce qu'entre la prise de fonction et ce week-end, les résultats ne se sont jamais améliorés et même ont empiré. Et que ça a été un peu une catastrophe avec pourtant un effectif bâti pour se battre, pour au moins être dans la zone des play-offs pour monter éventuellement en fin de saison. Et là, ils sont plutôt dans la zone des play-offs pour ne pas descendre en 3e division. Donc, c'est un peu compliqué. On a Daniele De Rossi aussi. Il y a une petite actualité aussi parce que lui, il arrive encore un peu plus tard à la Spal, club de Ferrara, et en fait il s'est un peu payé ses dirigeants après le mercato en disant c'est pas parce que je suis tout jeune dans le métier que je dois tout accepter et qu'on doit tout me faire avaler, et en plus il a perdu ce week-end et il se murmure que ça commence à être un petit peu tendu pour lui. Et les deux autres par contre ça se passe très bien. Pippo Inzaghi, 3e avec la Reggina. Alors c'est lui, il a beaucoup plus d'expérience déjà comme entraîneur, et notamment en Italie. Ça se passe très très bien. 3e avec la Reggina, c'est une belle équipe avec des bons joueurs. Jérémy Ménez d'ailleurs, qui est dans cette équipe, consultant RMC. Et puis on a aussi maintenant Fabio Grosso,
Le Lyonnais.
Le héros de la demi-finale contre les Allemands de Polo, qui lui est en tête avec Frosinone, et qui est un peu comme Benevento, c'est un club qu'on voyait facilement dans la zone pour monter. Et lui, il fait un peu une nappe avec Frosinone, et ils ont 11 points d'avance sur le deuxième. Donc ça devrait bien se passer, on devrait revoir Fabio Grosso en Serie A la saison prochaine.
Nous on a Vieira à Palace, on a Zidane à Madrid, on a Deschamps en équipe de France champion du monde, c'est pas mal.
Il faut que les gens revoient Laurent cette Blanc. Demi-finale Laurent Blanc, entre bien sûr, l'Italie à Lyon. Et l'Allemagne, parce que tout le monde dit que le match est très serré, etc. Mais en fait les Italiens sont tellement au-dessus, ouais, techniquement parlant, que c'est vraiment impressionnant de revoir cette demi-finale.
Pour moi, c'est leur chef-d'œuvre de cette Coupe du Monde là.
Du Mondial 2006.
Cannavaro, l'un des mecs les plus sympas que j'ai rencontré dans ma carrière.
Ah ouais.
Oh. Un mec intelligent, sympa, et qui se la pète pas.
Et Ballon d'Or.
Eh oui,
tout simplement. Allez, on fait une pause, les gars, on revient dans un instant. Tout à l'heure, Clément Grenier sera avec nous, mais on va aussi parler dans le prochain quart d'heure du Milan. On va évoquer aussi avec Polo le carton du Borussia Dortmund, avec notamment un but de Sébastien Haller, le premier depuis son retour sur les terrains. Restez avec nous, c'est Génération After, spécial drôle de dame sur RMC. À tout de suite.